Bonjour à tous. Je crois vraiment que ce matin, on n'est pas obligé d'avoir un message. Entendre une présidence comme ça, je crois vraiment qu'on est reparti pour une bonne semaine. Ce devrait vraiment passer une semaine et de réfléchir cette grâce. C'est formidable que le Seigneur Jésus-Christ nous offre gratuitement la vie éternelle. Je peux que l'adorer et le louer. Je peux faire que ça. On va passer maintenant un petit instant dans la prière. Oui, Père, tu as tout préparé pour tes enfants, Seigneur. Bien à l'avance. Tu savais, Seigneur, que je suis un pauvre pécheur. Et j'avais besoin de toi. J'avais besoin de ta grâce. Et chacun de nous, on a besoin de ta grâce. Ce matin, tu veux encore nous donner vraiment ces moments de s'arrêter et regarder dans ta parole ce que tu veux nous dire encore ce matin. Bénis ton serviteur en Jésus. Amen. Alors, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Dieu, je dirais en tant qu'enfant de l'Éternel. Nous avons déjà passé ou nous passons par un moment plus difficile. Ce matin, je voudrais vraiment m'arrêter ce moment plus difficile qui est un passage à vide. Un passage à vide. Où on se pose des questions. Juste une question. Tout ce que je fais ou tout ce que je crois est vraiment cela? Ou dois-je faire autre chose et croire autre chose? C'est vraiment un passage à vide. En tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de l'Éternel. Et je crois vraiment, on veut être éclairé, pour être rassuré. Nous avons besoin d'être confirmés et fortifiés en tant qu'enfants de Dieu. Non ? Et nous voyons dans l'évangile de Matthieu ainsi que de Luc, où on nous dit qu'un homme passe par ce passage à vide. Bien sûr, il n'est pas indiqué comme ça, mais quand nous le lisons, ce passage, on voit vraiment un passage qui passe par un moment qui est un passage à vide. C'est qui ? Mais c'est Jean-Baptiste. Et je ne suis pas là pour le critiquer, bien au contraire. Je peux me mettre là, devant lui, et voir sa vie et dire « Waouh, heureusement que c'est marqué ces choses pour moi. » Jean-Baptiste est le prophète. Ce n'est pas n'importe qui, le prophète, qui a préparé le chemin du Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui a baptisé Jésus-Christ. C'est celui qui a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. C'est celui qui a entendu la voix, une voix qui venait des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Oui, Jean-Baptiste a vu et entendu la Trinité. Il voit Jésus-Christ, il voit l'Esprit et il entend le Père. C'est aussi celui qui a dit à deux reprises, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pourquoi je dis que Jean-Baptiste passe par un passage à vide ? Mais tout simplement, à un moment donné, Jean se retrouve en prison. Il n'a rien fait de mal, bien au contraire. Mais le voilà en prison. Et là, dans cette prison, il a la visite de ses disciples. Et Luc précise bien qu'il y avait deux disciples. Et là, Jean-Baptiste va dire à ses deux disciples, « Allez, allez voir Jésus-Christ et demandez à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ?» Ou devons-nous en attendre un autre ? Je ne sais pas si ce matin, cette question pour nous est vraiment quelque chose d'important. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Cette question est si forte que vraiment c'est un passage à vide de Jean-Baptiste, le prophète. Et on va lire ensemble ce matin, c'est dans Matthieu, j'ai pris Matthieu ce matin, au chapitre 11, nous lirons les 6 premiers versets. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Verset 6, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Oui, Jean-Baptiste parle à ses disciples. Je reviens peut-être plus précis de Luc qui dit qu'il y a deux disciples. Il parle de ce qu'il ressent dans sa vie, ce qui se passe pour l'instant dans son cœur. Il a entendu les œuvres de Jésus-Christ. Et certainement, en lui-même, il se dit, si Jésus est bien le Messie, pourquoi je suis encore en prison ? Il devrait me libérer et libérer tout le peuple et prendre la place en tant que roi. Je suis celui qui fait la volonté de Dieu. J'ai préparé tout ce chemin. Et je suis en prison. Et je suis, moi aussi, qui vous parle ce matin, comme Jean-Baptiste. Lorsque nous pensons avoir compris la volonté de Dieu et que Dieu agit autrement, nous nous posons des questions. C'est là le passage à vide. Lorsque nous pensons avoir compris la volonté de Dieu et que Dieu agit autrement, nous nous posons des questions. Mais dans ce texte, il y a quelque chose de plusieurs choses, je dirais. Mais le courage de Jean-Baptiste. Pourquoi je dis le courage ? Ça doit être dur de dire avant. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis dire, es-tu celui qui doit venir ? Quel courage de leur dire à ses disciples. Mais Jean-Baptiste veut être vraiment éclairé. Jean-Baptiste veut être rassuré. Il a besoin d'être confirmé et fortifié en tant que prophète. Et mon premier point ce matin, peut-être que toi aussi, tu passes par un moment qui est un passage à vide. Tu es peut-être responsable de l'une ou l'autre ministère et tu te poses les mêmes questions. Pourtant, je suis un disciple de Jésus-Christ. Pourtant, je suis serviteur de Dieu. Et des années et des années, pourtant, je suis un enfant de Dieu. Et je t'encourage, comme Jean-Baptiste, d'en parler à l'une ou l'autre personne. Ces personnes ne vont pas te juger, mais bien au contraire, ils vont prier pour toi. On voit vraiment que les disciples, ces deux disciples, ne jugent pas Jean, mais ils partent voir Jésus-Christ. C'est la même chose que la prière. Je me souviens que, maintenant ça date, il y a quelques années d'ici, mon frère Salvatore était parti à un séminaire en Provence, au Vif, chez Brian Tadfort, un grand et un grand évangéliste. Quand il parle, quand il a terminé, on s'est dit, ben, déjà il a fini, tellement qu'on a envie de le suivre. Et mon frère me racontait que, mon frère l'aime bien poser les questions, il lui posait souvent des questions. Et il m'a dit, mon frère, directement, Brian Tadfort, s'arrêter et prier pour que mon frère puisse être éclairé, être rassuré. Ce matin, peut-être tu as besoin d'être éclairé, rassuré, être confirmé et fortifié en tant qu'enfant de Dieu. Je t'encourage vraiment d'en parler. Voilà le premier point. Puis, on voit que ces deux disciples vont dire à Jésus, « Jean te dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus est vraiment grand. Moi, j'aurais dit directement, oui, c'est moi. Allez dire à Jean-Baptiste, c'est moi. Non, Jean, Jésus ne fait pas comme ça. Et ne juge pas Jean-Baptiste. Jésus dit, allez, annoncez ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il est bon que ces deux disciples voient et entendent les merveilles de Dieu, de Jésus-Christ. J'ai mon fils Mathieu, je l'ai déjà dit, il joue au football. Et le samedi, c'est le match. Quand il a fini le match, il rentre dans la voiture et j'aime bien. Je le fais très très mal, mais je le fais encore. Je lui dis à chaque fois les erreurs qu'il fait. Bien sûr, j'ai joué au football et c'est plus fort que moi, je dois lui dire. Mais je fais très très mal. Par contre, un jour, l'entraîneur a fait quelque chose de beau. Il a filmé tout le match. Et puis le lundi, tous les joueurs sont restés en vestiaire et ils ont examiné la vidéo. Et là, au retour, après l'entraînement, Mathieu lui-même me dit, « Papa, j'ai vu comment je joue. J'ai vu les erreurs. » Et puis, l'entraîneur m'a dit, « Comment je dois faire ? Papa, j'ai vu, j'ai entendu. Il est bon que ces deux disciples voient et entendent. » les merveilles de Dieu. Voir quoi ? Voir ces miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pourquoi ces deux disciples devaient voir et entendre ? Mais tout simplement pour rassurer son ami Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne va pas voir ces miracles et ne va pas entendre ces merveilles. Mais ses deux disciples vont voir pour lui. Et je vois un peu l'image, pas que je vois, parce que vous allez me dire, mais Gino, il voit des choses. Non, je me fais une image de voir ces deux disciples, une fois que c'est terminé, en train de courir pour aller en prison. À cette époque-là, ils n'avaient pas les badges pour montrer qu'ils étaient des aumôniers ou des visiteurs. Mais je crois que Dieu a fait des grandes choses pour que ces portes s'ouvrent et qu'ils puissent aller raconter à Jean-Baptiste ce qu'ils ont entendu et vu. Est-ce que Jean-Baptiste a été rassuré par ces paroles? Mais je dirais tout simplement oui. Mais oui. Pourquoi? Parce que la prophétie d'Ésaïe, elle s'est accomplie. Et cette prophétie d'Ésaïe au chapitre 35, Ésaïe au chapitre 61, ce sont les signes qui nous disent de ce que le Messie allait faire dans le pays. Dans le pays. Ce sont les signes et les miracles. Ce que le Messie allait faire dans le pays. Pour prouver qu'il était bien le Messie promis, il lui rappelle à son ami Jean-Baptiste. Et Jésus a fait beaucoup d'autres miracles pour montrer qu'il était bien le Messie promis. Il était là. Il a montré par ses signes et ses miracles que le Dieu créateur était sur la terre. C'est formidable. Et juste un miracle que je trouve ça super, extraordinaire, c'est quand Jésus guérit ce paralytique. Il y avait tellement du monde ordinaire, du monde religieux et du monde de docteurs de la loi. Je veux dire, ces gens qui étaient là, certains devaient voir à travers de ces miracles, c'est le Messie qui est là. C'est Dieu qui est là. Jésus le montre à ce verset 22 au chapitre 5 dans Luc, qu'il connaît les pensées de chacun d'eux. Il montre vraiment qu'il est Dieu. Mais au verset 24, il dit « Or, afin que vous sachiez » Je trouve ça magnifique, parce qu'ils ne le savent pas. Je ne le savais pas non plus. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. » En un instant, il est guéri. En une seconde, il est guéri. Ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais tout simplement, le miracle est réalisé en vue d'attester la capacité et l'autorité du Christ pour le pardon des péchés. Mes frères et sœurs, il est là une dimension de la signature attestation qu'il est lui-même le Dieu vivant sur la terre, qu'il est le Messie. Mais aussi on voit, on peut le comprendre, qu'il ne dit pas nécessairement que les miracles vont avoir lieu pendant toute la période de l'Église. Il ne dit pas nécessairement que les miracles vont avoir lieu pendant toute la période de l'Église. Jésus fait les miracles quand il veut et où il veut. Il le fait quand il veut et où il veut. Jésus est venu sur la terre pour montrer qu'il était bien le Messie avec tous ses signes et ses miracles. Je vais raconter un témoignage, ça reste un témoignage, mais pour comprendre un peu ce texte. Vincent vient d'apprendre que sa mère est atteinte d'un cancer. Mais un cancer terminal, c'est la fin pour elle. Et il dit, quel coup terrible, quelle douleur immense. Ma mère, ma maman va mourir, je ne peux pas l'aider. Je n'ai rien à lui dire qui puisse la réconforter. Et Vincent crie à Dieu qu'il ne connaît pas. Nous avons besoin de toi. Si tu existes, révèle-toi à moi. C'est une prière sincère et vraie. Je le crois. Quelques jours après, il rencontre un chrétien qui lui parle du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Celui qui nous délivre de notre misère morale, qui vient apaiser notre douleur. Vincent accepte le Seigneur Jésus-Christ. Aussitôt, il veut en parler son nouveau bonheur avec sa maman. Il lui en parle, qui à son tour vient interpeller la conscience de sa mère. Enfin, il voit remplir son cœur de paix par le Seigneur Jésus-Christ. Mais la maladie a emporté cette maman. Et Vincent témoigne. J'ose à peine le dire, mais les derniers jours passés avec ma mère, avec ma maman, ont été les plus beaux de ma vie. Nous avons une chose si grande à partager. Jésus avait rempli nos cœurs d'un amour et d'une paix qu'il est impossible de décrire. Une paix qu'il est impossible de décrire. Pourquoi je raconte ce témoignage? Tout simplement, vous pouvez se poser la question là, pourquoi Jésus n'a pas guéri cette femme? Pourquoi n'a pas guéri cette maman? Mais je pense vraiment dans ce témoignage où c'est vraiment merveilleux. Sa maman, elle a eu la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. La bonne nouvelle est toujours là pour montrer que Dieu est toujours à l'œuvre. Et mon deuxième point ici, dans ce texte, c'est nous voyons que Dieu agit. Dieu agit en tout temps. Jésus-Christ est venu pour sauver le pauvre pécheur. Il n'est pas venu sur la terre pour te donner une bonne santé. Il peut le faire parce qu'il reste Dieu. Mais ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15, il est venu pour mourir pour nos péchés, et il est ressuscité après 3 jours pour te donner la vie éternelle. Il agit peut-être pas comme autrefois, mais il reste toujours le même. Il veut sauver le pécheur, le pauvre pécheur. Jean-Baptiste penser avoir compris la volonté de Dieu. Quand le Messie viendra, il règnera en tant que roi. Nous aurons la paix. Et on voit que Jésus a agi différemment. Et je crois vraiment, du moins pour moi, que je vis avec un système de logique. Quand il y a telle chose qui se passe, eh bien, il devrait avoir cette chose qui arrive après. Parce que c'est logique. Et j'aime bien ce jeu Tetris. On veut faire cette ligne bien droite. Les cubes arrivent et on essaye de faire ces cubes bien droites. À un moment donné, certains qui jouent bien résistent plus longtemps que moi. Mais d'autres, à un moment donné, ils n'arrivent plus. Ils me disaient, ça va trop vite. Avec Dieu, c'est la même chose. Ça va tellement trop vite. Comme il agit différemment que moi. Mais qu'est-ce qui est merveilleux avec le Seigneur Jésus-Christ? On n'a pas lu la suite. C'est qu'il agit avec toi aussi. Il t'a choisi. Directement, Jésus enchaîne avec Jean-Baptiste les suivants versets qu'on peut voir. Jésus t'utilise parce qu'il t'aime et il veut vraiment agir à travers de toi. Alors, toi et moi, je dirais plutôt moi et toi, si nous passons par un passage qui est un passage à vide, regarde comment Dieu a agi avec ses croyants d'autrefois qui ont vu et entendu les merveilles de Dieu. Jean-Baptiste a fait confiance à ses deux disciples. Est-ce que tu fais confiance à tous ces chrétiens d'autrefois? Est-ce que tu as confiance dans toute la parole de Dieu? Regarde ces croyants d'autrefois. Ils sont là pour t'éclairer, pour te rassurer dans ta vie, pour te confirmer et fortifier en tant qu'enfant de Dieu. Ces deux points. Parle avec quelqu'un. C'est le premier point. Et Dieu. Et le deuxième, tu verras vraiment que Dieu agit toujours et toujours parce qu'il aime. Le monde entier, il aime. Il ne l'a pas fait rien que pour toi. Il l'a fait pour tout le monde. Parce qu'il aime le monde. Nous sommes tous des pauvres pécheurs. Et j'aime vraiment ce que Benoît nous a raconté ce matin. Nous sommes sauvés par la grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.